crime s'installe ce soir en Aquitaine. Nous allons vous raconter ce soir trois histoires, trois faits divers qui se sont déroulés dans la région. En Gironde, le 18 avril 2006, les gendarmes vont être confrontés à une scène de crime digne d'un film d'épouvante. Le corps de Suzanne, 48 ans, est découvert à son domicile, lardé d'une quinzaine de coups de couteau, sa tête dissimulée sous un téléviseur. Sur sa peau a été écrit l'inscription énigmatique « La première et trois points de suspension ». Immédiatement, les enquêteurs pensent à un tueur en série qui signerait ses crimes. Pourtant, vous allez voir qu'une autre réalité va se dessiner, car Suzanne entretenait des relations amoureuses compliquées. Alors ce meurtre barbare serait-il l'œuvre d'un amoureux éconduit? C'est ce que vont devoir déterminer les gendarmes au plus vite.
C'est une scène d'une violence, c'est même pour des professionnels, des gens un petit peu habitués, c'est du lourd.
Le 3 juillet 2003, dans les Landes, Alexandre, un jeune instituteur, perd la vie dans un tragique accident de voiture. Fatigué, le jeune homme venait de disputer un match de tennis plus tôt dans la journée. Il faisait la route la nuit pour rentrer chez lui. Dans un premier temps, la thèse de l'accident semble la plus crédible. Pourtant, une analyse toxicologique va révéler dans le sang d'Alexandre la présence de Temesta, un fort anxiolytique. Sportif et heureux de vivre, Alexandre n'avait aucune raison de consommer ce type de produit. Alors a-t-il été drogué? Vous allez voir que cette enquête à rebondissement va mener les gendarmes dans un univers où le crime n'est pourtant pas légion, celui du tennis amateur.
C'est l'incompréhension et la stupéfaction parce qu'il est pas tard et il n'y a rien qui permet de comprendre pourquoi il s'est tué sur cette route-là, ce soir-là.
Le 29 janvier 2005, à Grignoles, Claude et son beau-frère, en rentrant de la chasse, vont faire une macabre découverte. Annie, sa femme, gît dans le lit conjugal à l'étage de leur maison. Une balle dans la tête, un fusil de chasse à ses côtés. Très vite, l'enquête va mettre à jour qu'Annie n'était pas suicidaire et qu'on ne lui comptait pas d'ennemis. Seule zone d'ombre dans la vie de cette mère de famille, sa relation houleuse avec Claude, son époux. Il faut dire qu'Annie, une femme joyeuse et énergique, gagnait bien sa vie, contrairement à Claude, à la retraite. Alors l'homme aurait-il été jaloux de la réussite de sa femme? S'agit-il d'un drame familial, comme semblent le penser les enquêteurs, ou font-ils fausse route?
Sincèrement, ce jour-là, on ne comprend pas. Et on ne comprend pas, et on est à la fois méfiant, et de notre côté, quelque part, il y a une peur qui s'installe.
Le 18 avril 2006, le corps de Suzanne, atrocement mutilé, est retrouvé à son domicile. Mais fait troublant, les enquêteurs vont découvrir sur son corps une phrase. La première est suivie de trois points de suspension. Les enquêteurs pensent donc qu'ils ont affaire à un tueur en série. Voici donc ce document inédit pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le meurtre barbare d'une mère de famille à première vue sans histoire. Un crime d'une rare cruauté dont la mise en scène scabreuse hante encore tous les habitants de la région.
C'est une scène d'une violence, c'est même pour des professionnels, des gens un petit peu habitués, c'est du lourd.
Nous sommes à Castillon-la-Bataille, au cœur de la Gironde. Cette petite ville de 3000 habitants se situe à quelques kilomètres de Saint-Émilion. La ville est particulièrement connue pour avoir été le théâtre de la bataille de Castillon en 1453. C'était à la fin de la guerre de Cent Ans, les Français avaient repoussé les Anglais hors de France.
Castillon-la-Bataille, c'est une petite commune du sud-ouest très viticole. Et curieusement, avec une problématique sociale qui parfois va un peu au-delà de ce que peut connaître une commune viticole, des difficultés sociales, pas mal de chômage, qui crée un état d'esprit, une tension parfois.
18 avril 2006. Sur les coups de 21h, Hassan, 36 ans, se rend chez sa compagne, Suzanne, 48 ans. Le couple, qui se fréquente depuis 9 mois, est en froid depuis quelques jours. Mais ils se sont réconciliés
l'après-midi.
Il arrive et puis il frappe et ça répond pas et puis il rentre et là il se trouve face à une scène d'horreur.
Il découvre la scène horrible de l'appartement dévasté, du corps de Suzanne mis dans une position particulière, enfin une espèce de mise en scène.
On va trouver là un mélange de Silence des agneaux, de Seven, de scènes de crime horribles.
Hassan est bouleversé. Il sent une très forte odeur de gaz dans l'appartement. La gazinière est allumée. Hassan l'éteint et prévient immédiatement les secours.
Le premier réflexe d'Hassan, c'est comme tout bon citoyen, il part en courant à la gendarmerie qui est pas très loin. Et il va raconter ce qui s'est passé.
Suzanne est-elle toujours vivante? Et surtout, que s'est-il passé dans l'appartement? S'agit-il d'une tentative de suicide? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sordide? À Castillon-la-Bataille, alertés par Hassan, les gendarmes se rendent immédiatement au domicile de sa compagne. À leur tour, ils découvrent une scène de crime hors du commun.
La scène de crime est d'une particulière violence. Les gendarmes s'aperçoivent qu'il y a eu un tourbillon dans cet appartement. Tout est renversé, tout est cassé. Il y a vraiment du sang partout. Il y a des canettes, des mégots qui traînent dans tous les sens. Enfin, c'est l'apocalypse.
Les gendarmes sont abasourdis. Ils n'ont jamais vu une telle scène de crime.
C'est une scène d'une violence, c'est même pour des professionnels, des gens un petit peu habitués, c'est du lourd.
Au vu des premières constatations, les enquêteurs déterminent que la victime a reçu de nombreux coups de couteau. Mais le plus surprenant, c'est la position dans laquelle se trouve le corps.
Suzanne est posée sur un canapé, donc elle a les fesses en l'air. Elle a la télé posée sur la tête, elle a un couteau planté dans le dos.
Sur le bas de son dos, le tueur a également écrit le début d'une phrase au feutre. La première est...
Ce meurtre était très troublant. Il était très troublant particulièrement parce que le corps de la victime avait été mis en scène, parce qu'il y avait une inscription au bas de son dos qui était très intrigante. Il avait été écrit au feutre « La première est ». La première est, qu'est-ce que ça pouvait signifier? Est-ce que ça signifiait que c'était le début de quelque chose? Est-ce que éventuellement quelqu'un avait envie de jouer au serial killer?
Mais l'incroyable mise en scène ne s'arrête pas là. Le tueur a ensuite introduit le stylo dans le postérieur de la victime et l'a recouverte d'huile. En poursuivant leurs investigations, un autre élément intrigue les enquêteurs.
Un des premiers éléments qui a été constaté par les gendarmes, c'est que la porte n'avait pas été fracturée. Donc c'est pas quelqu'un qui a cherché à s'introduire dans l'appartement sans y être invité. Ce qui les a immédiatement amenés à penser que l'auteur qui était rentré, la victime le connaissait.
Face à la complexité de la scène de crime, les enquêteurs appellent en renfort des experts scientifiques.
Là, il y a eu vraiment un déploiement d'experts scientifiques qui sont intervenus sur cette scène de crime parce que justement la scène de crime était particulière et qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer ce genre de choses.
Dans les relevés qui ont été faits assez rapidement, par les enquêteurs de la SIC, donc la police scientifique de la gendarmerie. Ils ont trouvé des cheveux, ils ont trouvé des traces papillaires sur une poêle à frire, ils ont trouvé divers éléments.
Durant leurs investigations dans l'appartement, un indice retient particulièrement l'attention des gendarmes.
C'est un des éléments déterminants. C'est une empreinte d'une marque de tennis Sergio Tacchini. Sous la semelle, il y a un T assez identifiable qui est gravé. Et ils ont trouvé cette trace dans une flaque de sang.
Les scellés sont envoyés au laboratoire. Le corps de Suzanne, lui, part à l'Institut médico-légal pour une autopsie. En parallèle, les gendarmes sur place commencent l'enquête de voisinage.
Les voisins avaient entendu du bruit à une heure un peu avancée de la nuit, des cris, du tapage nocturne. Pour autant, bon, ils ne sont pas intervenus, hein. Ils n'ont pas appelé les services de police.
Mais qui se cache derrière ce déchaînement de violence? Les gendarmes espèrent que les résultats des analyses scientifiques leur permettront d'éclaircir ce mystère. Les enquêteurs sont persuadés que la victime connaissait son agresseur. Suzanne a emménagé il y a un an à Castillon-la-Bataille. Divorcée, elle a un fils de 24 ans. Ancienne bouquiniste itinérante, son entourage parle d'elle comme d'une femme cultivée et attentionnée.
Suzanne, elle a été décrite comme une femme particulière, qui était très ouverte sur les autres, qui n'hésitait pas à faire rentrer chez elle les plus démunis, qui avait ce côté de grande ouverture d'esprit, un grand cœur, qui n'hésitait pas à donner le peu qu'elle avait aux autres. Et c'est aussi quelqu'un qui est décrit comme étant très intelligent, érudit, une intellectuelle.
Mais les gendarmes découvrent également une autre facette de sa personnalité, beaucoup plus sombre.
À côté de ça, elle a été décrite comme quelqu'un qui pouvait être habitué à fréquenter des établissements de bar, de nuit, qui pouvait avoir une habitude de boisson qui lui correspondait pas forcément.
Les proches de Suzanne sont entendus. Mais celui qui intéresse tout particulièrement les enquêteurs, c'est Hassan, son compagnon actuel.
Au départ, ils partent sur la piste qui paraît être la plus évidente, c'est-à-dire l'ami de Suzanne. Une dispute, ils ne se voient pas pendant quelques jours. Quelques jours plus tard, il vient à la gendarmerie pour dire « mon ami a été assassiné ». Voilà, on est presque dans la routine.
Hassan est alors placé en garde à vue. L'homme a le plus grand mal à s'expliquer et à fournir un alibi convaincant aux enquêteurs.
Il faut se mettre à la place d'Hassan qui subit donc le choc de voir cette scène de crime, qui se trouve mis en garde à vue, que voulez-vous qu'il dise, avec une barrière de la langue, une barrière culturelle. Il a eu le plus grand mal à s'expliquer et à trouver un alibi, parce que d'alibi, qu'il était chez lui, sans témoin. Que voulez-vous qu'il raconte aux gendarmes, sinon que c'est pas lui?
Au même moment, les résultats des analyses ADN tombent. Hassan est immédiatement disculpé.
L'ADN n'a pas permis effectivement de trouver l'auteur des faits, puisqu'il n'est pas connu des services de gendarmerie. Donc ça donne rien.
Si les enquêteurs n'ont plus de suspects, ils ont encore des indices à exploiter. Ils font donc appel à un graphologue pour analyser la phrase écrite sur le dos de Suzanne. Un profiler va également établir le portrait psychologique du tueur.
Le rapport du profileur dit bien que effectivement c'est quelqu'un qu'elle doit connaître, que c'est quelqu'un qui aime le rapport aux femmes, mais qui ne supporte pas l'autoritarisme.
Ce qui a été identifié dans le profil de l'auteur potentiel de ce crime, c'est que c'est quelqu'un qui présentait des fragilités, quelqu'un qui pouvait avoir beaucoup de complexes, quelqu'un qui pouvait être mal à l'aise avec les femmes. Quelqu'un qui pouvait se sentir très mal dans sa peau.
Le rapport d'autopsie tombe dans la foulée et démontre que la victime a été littéralement massacrée.
Alors l'autopsie va révéler 17 coups de couteau, 3 plaies à la tête, évidemment une grande violence, un acharnement sans nom, hors du commun, ça c'est évident, et des blessures très profondes.
Le rapport indique également un léger taux d'alcoolémie dans le sang de Suzanne. Mais un dernier élément surprend les enquêteurs.
L'autopsie a révélé qu'il n'y avait pas eu d'acte sexuel, alors que tout le monde pensait que c'était au départ un crime sexuel. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas eu de crime sexuel.
Les gendarmes sont perplexes. Le mobile privilégié part en fumée. Ils n'ont plus qu'un portrait psychologique pour tenter d'arrêter le tueur. Pendant ce temps, à Castillon-la-Bataille, les langues se délient.
Ce type de crime sur Castillon a eu un gros, gros impact émotionnel. Un Marocain est mis en garde à vue d'entrée. Il y a un contexte tout à fait inquiétant. Les mères disent à leurs filles de ne plus sortir. Les femmes ont peur. Tout le monde est inquiet. L'ambiance est relativement détestable.
Les gendarmes doivent agir vite et éviter un autre crime. Qui pouvait en vouloir à ce point à Suzanne ? S'agit-il d'un rôdeur, ou bien son entourage aurait-il caché des informations aux enquêteurs? Avec le portrait psychologique établi par le profiler, les gendarmes reprennent les enquêtes de voisinage. Le 27 avril, ils sont dans un immeuble à 100 mètres de chez Suzanne et ils frappent à la porte d'un appartement.
10 jours après la découverte du corps et après la découverte de la scène de crime, les gendarmes vont frapper à la porte de Jérôme Aoubi, qui répond sur un ton particulièrement détaché, en disant qu'il la connaît de près, de loin, mais sans plus, c'était juste une connaissance. Il reste très froid, très détaché, il n'y a aucune émotion qui ressort, les services de gendarmerie n'ont aucune raison de le suspecter à ce moment-là.
Pourtant, dans l'encablure de la porte, les enquêteurs remarquent une paire de baskets qui les intrigue.
Les gendarmes donc perquisitionnent chez Jérôme et là trouvent cette chaussure de sport de marque américaine qui correspond aux empreintes ou à l'empreinte qu'il y a chez Suzanne. Et là, ils dénouent le fil et effectivement, là, on a une preuve.
Les baskets sont immédiatement saisies et envoyées au laboratoire pour analyse. Jérôme, de son côté, est emmené à la gendarmerie pour un test graphologique.
On lui demande d'écrire sur une feuille différentes phrases en lettres bâtons. Ces phrases sont envoyées au graphologue et qui, en faisant la comparaison avec ce qui était écrit sur le bas du dos de Suzanne Frag, dit qu'il y a un très fort pourcentage de chances que ce soit la même écriture.
Les gendarmes sentent qu'ils sont sur la bonne piste. Ils vont chercher à en savoir plus sur le jeune homme. Jérôme est originaire de la banlieue parisienne. Il arrive en Gironde en 1993, à l'âge de 13 ans. Ses parents divorcent la même année.
Jérôme, il a un CAP boucherie, charcuterie. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des études brillantes. C'est quelqu'un qui est pour autant un petit casier judiciaire, mais qui n'a absolument rien à voir avec le domaine criminel. Donc c'est pas quelqu'un qui est connu plus que ça des services de gendarmerie. Il a une sœur. Il a un bon rapport avec sa mère. En revanche, de très mauvais rapports avec son père, qui se moquait régulièrement de lui parce qu'il était en surpoids.
Depuis quelque temps, Jérôme vit marginalement. Il boit beaucoup et fume du cannabis.
C'est un jeune qui va se retrouver dans un petit appartement en bord de Dordogne, à passer ses journées à boire des bières, fumer des joints, regarder des DVD, aller à la pêche et à fréquenter des gens peu recommandables.
Pour les enquêteurs, se dessine la piste d'un crime crapuleux, avec Jérôme en principal suspect. Et cela d'autant plus que les résultats des tests ADN tombent, ils sont sans appel.
C'est le sang de Suzanne qui est finalement découvert sous cette chaussure de sport, avec l'ADN de Suzanne.
Jérôme est donc forcément entré dans l'appartement de Suzanne le soir du meurtre. Il est désormais le suspect numéro 1. Mais Jérôme a-t-il réellement commis ce crime atroce? Et si c'est le cas, était-il seul ou avec des complices? Le 29 avril, Jérôme est placé en garde à vue. Immédiatement, il revient sur sa première déposition et avoue connaître Suzanne. Cela faisait un mois qu'il entretenait une relation intime avec elle.
Jérôme et Suzanne se sont rencontrés au bar des Allées, qui est le bar qui était très fréquenté à l'époque à Castillon. Ils ont eu des relations relativement suivies, il est allé chez elle plusieurs fois.
Mais si Jérôme avoue sa relation avec la victime, dans un premier temps, il nie l'avoir tuée. Les enquêteurs lui présentent alors les preuves irréfutables qu'ils ont contre lui. Et rapidement, le jeune homme craque.
Il avoue complètement le crime et là, il va décrire la scène de crime avec une précision chirurgicale et une froideur, pareil, assez hors du commun, assez singulière.
Le 17 avril 2006, Jérôme se rend comme souvent chez Suzanne. Il est 23h30, le jeune homme a vérifié qu'Hassan, le compagnon de Suzanne, était absent. En l'attendant, Suzanne a déjà commencé à boire.
La soirée commence plutôt bien, il n'y a pas de difficultés majeures. Et puis jusqu'à ce que finalement Suzanne lui dise, elle lui annonce qu'elle met un terme à leur relation. Et là, il s'énerve.
Il raconte que Suzanne s'est moquée de lui et plus particulièrement de la taille de son sexe. Elle l'a insulté. Alors que Jérôme voulait partir, elle aurait pris une poêle à frire pour le taper. De rage, l'homme se serait emparé de cette poêle et l'aurait retournée contre Suzanne. Et là, il serait entré dans une colère aveugle.
Il réfléchit pas, il prend le premier couteau qui lui tombe sous la main et il poignarde Suzanne. Il la poignarde déjà plusieurs fois. Pour autant, ses coups sont pas mortels.
La violence est telle que le manche du couteau se casse, laissant la lame plantée dans le rein de Suzanne. Elle gémit, ne peut plus bouger, mais supplie Jérôme d'arrêter. N'ayant plus d'armes pour achever sa victime, le jeune homme décide alors de retourner à son domicile.
Il rentre chez lui. Il discute avec son demi-frère, il lui dit « J'ai fait une connerie, il faut que j'y retourne. »
Pierre, son demi-frère, n'y prête pas attention et se rendort. Jérôme est toujours sous l'emprise de sa folie meurtrière. Il s'empare alors d'un couteau de boucher et d'un pull pour effacer ses empreintes. Puis il ressort, direction l'appartement de Suzanne.
Il voit qu'elle s'est retournée, donc qu'elle bouge encore. Ça le démonte encore plus que ça ne l'était. Il prend son couteau de boucher et il la poignarde encore plus fort. Et c'est là qu'on va aboutir à 17 coups de couteau.
Quand Jérôme est certain que Suzanne est morte, il met en scène son crime pour tenter d'égarer les gendarmes.
Il la pose à moitié nue sur le canapé, la tête et l'épaule sur le canapé. Elle est à genoux. Il arrache la télé, il lui pose la télé sur la tête. Il recouvre le corps de Suzanne d'huile. Il écrit avec un feutre la première « et ». On n'a jamais su à quoi ça correspondait. Et pour l'humilier, il lui baisse sa culotte et il insère un feutre, le feutre qui a servi à écrire la première « et » entre les fesses.
Avant de partir, il allume la gazinière. Il espère que l'immeuble explose et fasse ainsi disparaître l'atrocité de ce qu'il vient de commettre. En arrivant chez lui, il réveille une nouvelle fois son demi-frère.
Il avoue son crime. Il dit cette fois j'ai fait mal, j'ai tué quelqu'un, j'ai allumé la gazinière et ça a fait boum, je suis un serial killer.
Jérôme, fier de son acte sordide, va alors nettoyer son couteau de boucher, prendre une douche et partir se coucher. Les jours qui suivent, il a effacé le meurtre de sa mémoire.
Il va continuer à aller à la pêche, il va se lever tard, il va continuer à vivre sa vie comme si rien ne s'était produit.
Face au récit du jeune homme, les enquêteurs sont abasourdis. Jérôme est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Alors comment ce jeune homme de 26 ans a-t-il pu commettre un tel acte sur une femme avec qui il entretenait une relation ? Et comment expliquer un tel déchaînement de violence? Le 21 janvier 2009, 2 ans et demi après les faits, le procès de Jérôme s'ouvre à la cour d'assises de Bordeaux. Il doit durer 3 jours.
L'ambiance est lourde, il y a le fils de Suzanne, qui est visiblement extrêmement en souffrance. Il y a sa famille, il y a la maman de Jérôme, qui est absolument catastrophée.
L'audience commence par la lecture de l'acte d'accusation. Le greffier revient sur la description du crime. Dans le box des accusés, Jérôme ne montre aucune émotion. Alors pour obtenir des explications sur ces actes, le président donne la parole à l'accusé.
Et lui demande s'il a quelque chose à déclarer. Et là, Jérôme Dubois se lève et dit « Ben ouais, je l'ai tué, mais voilà quoi !» Et silence.
La seule explication avancée par le jeune homme est toujours la même. Il aurait vu rouge à cause d'une phrase injurieuse de la victime sur la taille de son sexe.
Le mobile du meurtre, c'est ce qu'il va déclarer un peu plus tard dans l'instruction et à la cour, c'est que Suzanne lui a dit que son sexe était trop petit, que c'est une atteinte narcissique telle que à son honneur, à sa virilité, etc., que ça va le rendre fou et que c'est pour cela qu'il l'a frappé puis il l'a tué dans un second temps.
Fait exceptionnel dans une procédure, un spécialiste est alors appelé pour expertiser le problème sexuel de Jérôme.
Il souffrait de ce qu'on appellerait, en termes techniques, un micro-génitomorphisme, un pénis de taille insuffisante. Puis en grandissant, il s'était rendu compte, en regardant les films pornographiques, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il n'avait pas l'équipement qu'il fallait et qu'il en a souffert beaucoup.
Pourtant, l'expert détermine que la taille du sexe de Jérôme n'est que légèrement en dessous de la moyenne. Son complexe n'est donc pas fondé. Le juge va alors s'intéresser à la phrase écrite sur le bas du dos de la victime. Mais une nouvelle fois, Jérôme est peu bavard sur le sujet.
La première est « qu'est-ce que ça veut dire ?» À part « voilà quoi », Jérôme ne va pas livrer beaucoup d'explications. Alors, on peut gloser la première et la dernière. La première est, ça devait être, d'après les dires de Jérôme, sa première relation sexuelle, sa première véritable relation sexuelle. Et comme Suzanne aurait porté atteinte à sa virilité, il la tue et la relation sexuelle n'a pas lieu.
Le procès prend fin sans que les proches de Suzanne n'aient obtenu de réponse. Les jurés condamnent Jérôme à 30 ans de réclusion, sans peine de sûreté. Soit 10 ans de plus que les recommandations de l'avocat général. Huit ans après le drame, la famille de Suzanne ne se remet toujours pas du crime et de sa mise en scène sordide. Pour son fils, qui avait 22 ans au moment des faits, il est très difficile de surmonter la douleur de cette perte.
Son fils ne pourra jamais se remettre complètement de ce qu'il a vécu, d'abord parce qu'il est très jeune et qu'il n'a pas pu vivre avec sa mère tout ce qu'il aurait pu vivre. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais en capacité de lui présenter sa femme, ses futurs enfants. On lui a arraché sa mère et il avait dit « ma vie avec ma mère n'était pas finie ». On a coupé cette relation alors que j'avais encore plein de choses à vivre avec elle. Et c'est ce sentiment énorme de frustration, de peine qui en est ressorti.
Nous allons vous raconter maintenant une histoire qui s'est déroulée en 2003. Alexandre est un sportif, il vient de terminer une compétition. Il va prendre sa voiture et va être victime d'un accident de la route. Les gendarmes vont découvrir dans son sang d'importantes doses de Temesta, un puissant anxiolytique. Et vous allez voir que les gendarmes vont entrer dans une affaire de règlement de compte dans le monde du tennis amateur. Voici donc ce document inédit pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir une incroyable histoire qui a bouleversé l'univers du tennis français. L'histoire d'un homme au-delà de tout soupçon qui a brisé à jamais la vie d'un jeune instituteur landais.
C'est l'incompréhension et la stupéfaction parce qu'il est pas tard et il n'y a rien qui permet de comprendre pourquoi il s'est tué sur cette route-là ce soir-là.
Nous sommes dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. Ce paisible département, bordé par l'océan Atlantique, est connu pour l'une de ses plus grandes forêts de pins. Ici, on vit au rythme du soleil et des férias.
C'est un département qui est peuplé de pins, d'une pinède, et qui longe l'océan Atlantique. Un département très festif, rythmé par les fêtes locales de Dax, Mont-de-Marsan, des petits villages aux alentours, et également un département très sportif.
Dax, 3 juillet 2003. Il est 23h30, lorsqu'Alexandre, un jeune instituteur d'une vingtaine d'années, sort d'un immeuble. Il vient de quitter un ami et doit regagner son domicile, situé à 20 km de la ville. C'est l'affaire d'une trentaine de minutes, un parcours qu'Alexandre connaît par cœur.
Il va prendre son véhicule et, à un moment donné, va se retrouver en train d'emprunter une ligne droite. Au bout de cette ligne droite, une courbe assez prononcée.
Et alors que ce virage ne présente aucun danger, le jeune homme perd le contrôle de son véhicule, sous le regard stupéfait du conducteur derrière lui.
Un témoin a vu la voiture dévier de sa trajectoire et s'en freiner et aller dans un arbre.
La voiture franchit le terre-plein avant de heurter un rideau d'arbres et de s'échouer dans un fossé.
C'est l'incompréhension et la stupéfaction parce qu'il n'est pas tard quand il y a cet accident. Il n'y a pas de, c'est pas une zone accidentogène et il n'y a rien qui permet de comprendre pourquoi il s'est tué sur cette route-là ce soir-là.
Prévenus du drame, les secours interviennent rapidement sur les lieux. Mais il n'y a plus rien à faire. Alexandre est mort sur le coup. Les premières constatations laissent penser à un banal accident de la route.
Toutes les hypothèses sont possibles. Endormissement causé par l'alcool, par la fatigue, vitesse inadaptée.
Il s'agit d'un accident de voiture inexpliqué.
Alexandre avait 25 ans et la vie devant lui. Alors, que s'est-il passé sur cette route des Landes ? Le jeune instituteur s'est-il endormi au volant ? On ne le sait pas encore, mais ce banal accident de la route va s'avérer être l'une des histoires les plus noires qu'ait connu le département. Le lendemain du drame, à Castelnau-Chalosse, là où vit et travaille Alexandre, c'est l'effroi. La nouvelle de la mort du jeune instituteur se propage rapidement jusqu'au maire du village.
Le 4 juillet au matin, 7h30, j'étais levé, le téléphone sonne, le maître du village d'à côté m'apprend la terrible nouvelle. Alexandre est décédé et a eu un accident de voiture. Quand j'ai fini de comprendre vraiment et d'admettre la triste vérité, ben j'ai serré les dents et puis j'ai fait ce qu'il y a à faire.
Pour le maire, qui croisait tous les jours Alexandre, c'est l'incompréhension totale. Il va devoir prévenir les élèves ainsi que les autres instituteurs de la commune. Il se rend ensuite chez les parents d'Alexandre.
Les parents d'Alexandre sont prévenus déjà. Je vais leur faire une visite de condoléances et on a bien soupiré, on a bien pleuré ensemble. On n'a pas beaucoup parlé.
Au moment de l'accident, Alexandre a 25 ans. Le jeune instituteur est alors promis à un bel avenir.
C'est un grand et beau jeune homme. Le regard clair, direct, le sourire aux lèvres.
Il vient de terminer son cursus d'instituteur. Il a fait une première année à Castelnau-Chalosse avec une classe de CP. C'est un garçon qui est très aimé dans son village, qui est très apprécié dans son club de tennis où il est impliqué.
Car la passion d'Alexandre, c'est le tennis. C'est un très bon joueur de la région. Il est également juge-arbitre et membre du comité départemental de tennis. Mais le plus grand bonheur d'Alexandre, c'est sa famille. Et surtout, sa compagne, Véronique, avec qui il vient de se paxer.
Ils avaient des projets de bébé, ils étaient en train de s'installer, de construire une vie de couple, une vie de famille dont il avait très envie.
Les proches du jeune homme sont dévastés par cette disparition subite. Ils veulent comprendre comment Alexandre a pu rater un virage qui n'était en aucun cas une zone de danger.
D'après ce que les enquêteurs ont pu réunir comme information, on constate qu'à aucun moment Alexandre n'a essayé de faire une manœuvre quelconque pour maintenir son véhicule sur la chaussée. À aucun moment il ne va freiner, on ne va pas trouver de traces de freinage sur la chaussée. C'est un tout droit.
La raison de l'accident d'Alexandre se trouve peut-être dans les 24 heures qui ont précédé le drame. Ce jour-là, c'est la veille des vacances d'été. Les élèves d'Alexandre lui ont organisé une petite fête pour le remercier de l'année écoulée. Alexandre est ensuite allé jouer un match de tennis à Tartas, une commune située à 20 km de Castelnau-Chalosse.
Le match de tennis va se dérouler et par la suite, donc, Alexandre, de manière semble-t-il assez précipitée, va reprendre son véhicule pour d'abord, dans un premier temps, se rendre chez un ami.
Alexandre est fatigué. Il ne se sent pas bien. Il avait prévu une soirée à Osgore qu'il décide d'annuler. Le jeune homme préfère faire une halte chez un ami afin de se reposer. Ce dernier remarque alors qu'Alexandre a un comportement plutôt bizarre.
Il est confus. À un moment donné, il va se mettre devant un ordinateur et faire des fautes de français assez inhabituelles. Pour ensuite sombrer dans un sommeil très très profond.
Au bout d'un long moment, il se réveille et son ami lui dit « Mais tu peux rester encore, tu peux même rester ici, tu peux rester là. » « Non, non, j'ai affaire. » Et puis ça va très bien maintenant, ça va très bien. Et il part.
C'est la dernière fois que le jeune instituteur sera vu vivant. Alexandre prend sa voiture, qui finira sa course au bout de la ligne droite. Alors Alexandre était-il tout simplement fatigué de sa journée, au point de s'endormir au volant? Ou la vérité est-elle beaucoup plus sordide? La mort d'Alexandre résonne comme une onde de choc dans toute la région Aquitaine. L'accident du jeune instituteur est au cœur de toutes les conversations, notamment dans le milieu du tennis landais, où il est très apprécié.
Lorsque la nouvelle du décès d'Alexandre va se répandre, bien entendu, les gens qui sont tennismen, qui pratiquent le tennis ou qui s'occupent de la ligue vont être avisés. Et parmi ces gérants figure mon confrère Maître Laïtette.
Maître Laïtette n'est autre que l'avocat de la Ligue de tennis d'Aquitaine. Il apprend que le jour de l'accident, Alexandre a joué un match de tennis contre un joueur local, un certain Maxime. Une information qui lui évoque une sombre affaire, survenue moins d'une semaine avant le drame. Ce jour-là, Benoît, un autre joueur de la région, dispute une finale, justement, contre Maxime.
Je pose mon sac et je me rends à proximité des terrains pour voir la finale dame, voilà, qui avait lieu juste avant. En revenant, je me rends compte que mon sac n'est plus à la place où je l'avais déposé. Je constate juste la présence de ma bouteille d'eau, qui était une bouteille d'eau minérale capsulée, qui est ouverte et où il manque entre 5 et 10 cm d'eau.
Sans y prêter vraiment attention, Benoît se rend sur le court pour disputer sa finale. Mais au milieu de la partie, Benoît perd pied.
Tout commence à se dégrader. C'est-à-dire que j'ai les jambes qui tremblent, je commence à avoir double. Et le match bascule très vite en faveur de Maxime.
Benoît est complètement groggy. Il n'arrive plus à taper dans les balles. Le jeune homme finit par perdre le match. Dans les heures qui suivent, la santé physique de Benoît continue de se dégrader. À tel point qu'un médecin vient l'ausculter sur place et lui recommande de se rendre au plus vite à l'hôpital.
Je me rends aux urgences de Mont-de-Marsan. Les batteries de tests sont passées le soir. rien n'est décelé.
Et Benoît n'est pas le seul à avoir connu des problèmes lors de matchs contre Maxime. Sébastien, un autre joueur, assistait à un curieux manège dans les vestiaires.
Il s'aperçoit que ses affaires ont été déplacées et il voit le père de Maxime rôder aux alentours de ses affaires.
Christophe, le père de Maxime, est également son entraîneur et il est présent à tous ses matchs.
Sébastien va surprendre Christophe en train de manipuler sa bouteille, va constater que celle-ci présente des dépôts blanchâtres et donc va s'en ouvrir de cette difficulté, de cette découverte auprès de différentes personnes. Sébastien va leur dire « J'ai surpris Christophe en train de manipuler ma bouteille » et visiblement, dans cette bouteille, il a mis quelque chose. Il garde la bouteille.
Sébastien est convaincu que le père de Maxime a tenté de l'empoisonner et il décide d'agir.
À ce moment-là, Sébastien va se mettre en contact avec Benoît et tous les deux, dès le 2 juillet, vont aller porter plainte à la gendarmerie et Sébastien va amener aux gendarmes la bouteille qui présentait les dépôts blanchâtres pour analyse.
La plainte de Benoît et Sébastien est appuyée par Maître Laïtet, dont le fils aurait lui aussi été victime de Christophe. Le lendemain, les résultats des analyses tombent. L'eau a été contaminée par du Temesta, un puissant anxiolytique. Alors la mort d'Alexandre a-t-elle un lien avec ces empoisonnements ? S'agirait-il d'un crime ? Et si oui, Christophe est-il coupable ? À Dax, une enquête est ouverte pour connaître les circonstances exactes de la mort d'Alexandre. Le parquet, en charge de l'affaire, décide de faire pratiquer une autopsie sur le corps du jeune homme.
Il y a des tests d'alcoolémie qui ont été faits. C'est un garçon, on est dans un milieu ultra sportif de jeunes qui marchent bien dans les études, qui sont super sains, qui boivent pas, qui prennent pas de cannabis. Mais enfin, tout ça est cherché, il n'y a rien.
L'autopsie détermine définitivement qu'Alexandre n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. En revanche, le médecin légiste fait une découverte surprenante.
Cette autopsie va apporter un élément que je qualifierais de tout à fait original, puisque l'on va déceler des traces de Temesta dans les prélèvements qui seront opérés par le médecin légiste.
Selon les résultats des analyses, Alexandre aurait ingurgité entre 4 et 6 cachets de Temesta. Or, la posologie de ce puissant anxiolytique est normalement de 2 cachets par jour maximum. Pour les gendarmes, plus de doute possible. Alexandre a été empoisonné. Il décide donc de s'intéresser de près à Christophe, le père de Maxime.
Christophe, a priori, c'est monsieur tout le monde. Hein. Une personne douée de facultés intellectuelles tout à fait normales, qui a du discernement, de la réflexion, qui a normalement, sur un plan moral, une éthique certaine.
À 43 ans, Christophe est un homme très investi dans l'éducation de ses 3 enfants, Maxime, Valentine et Robin.
C'est un homme très bien, qui n'a bien entendu jamais eu le moindre problème avec la justice, qui était instructeur pilote d'hélicoptère, qui a fait une carrière dans l'armée, qui a pris sa retraite pour pouvoir consacrer sa vie à ses enfants.
Et sa femme explique qu'elle pense que c'est là qu'il a peut-être un peu dérapé. C'est en quittant l'armée, un univers très cadré où il trouvait son compte, il s'est retrouvé retraité, tôt, entièrement tourné vers ses enfants, vers leurs résultats et leurs performances. Et il s'est donné pour mission de les faire réussir, en fait.
Christophe est donc interpellé le 2 août 2003 à la gare de Dax, à 6h du matin, alors qu'il revient avec sa fille Valentine d'un tournoi de tennis à l'étranger. Et à son plus grand étonnement, les gendarmes lui notifient sa garde à vue.
La posture immédiate spontanée de Christophe vis-à-vis des enquêteurs, c'est de leur dire « Vous faites fausse route, je n'ai strictement rien à voir avec le malaise d'Alexandre et son décès consécutif. »
Christophe a-t-il empoisonné les adversaires de son fils ? Est-il coupable de la mort d'Alexandre ou bien innocent, comme il le proclame ? À la gendarmerie de Dax, Christophe est en garde à vue. Il maintient qu'il n'est en aucun cas responsable de la mort d'Alexandre. Pour obtenir des aveux, les enquêteurs l'informent que des traces de Temesta ont été retrouvées dans la fameuse bouteille d'eau.
Les enquêteurs, vous l'imaginez, se montrent tout à fait insistants. Il va procéder à des aveux a minima. Les gendarmes vont lui expliquer que l'on a retrouvé des substances contenant des molécules de Temesta dans la bouteille. Bouteille qu'il avait été surpris en train de manipuler. Et à partir de là, son armure va en quelque sorte se fissurer, se craqueler, et il va reconnaître effectivement avoir tenté, avoir essayé d'intoxiquer Sébastien.
Christophe reconnaît avoir voulu intoxiquer Sébastien et Benoît. En revanche, en ce qui concerne Alexandre, le jeune instituteur, l'homme ne se souvient pas. Il est d'ailleurs incapable d'expliquer clairement aux enquêteurs les raisons de son geste.
Il évoque aussi des espèces de pulsions d'angoisse qui l'ont poussé à mettre du Temesta dans les bouteilles d'eau, d'abord pour protéger ses enfants et ensuite pour faire face à ses propres angoisses.
Au départ, c'est quelque chose qui est très ponctuel. Et puis au fur et à mesure, son état amplifie. Il est de plus en plus stressé et il ne peut plus supporter les matchs.
Pour arriver à mettre du Temesta dans les boissons, Christophe a développé un mode opératoire très efficace.
Il avait précisé qu'il avait toujours sur lui une sacoche banane dans laquelle il mettait les comprimés de Temesta. Et donc dès qu'il avait la possibilité, il versait ses comprimés dans les bouteilles des adversaires ou dans les boissons. Il allait parfois jusqu'à leur offrir une boisson. Et à ce moment-là, il mettait ses cachets.
À la fin de sa garde à vue, Christophe est mis en examen pour administration de substances nuisibles avec préméditation ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En attente de son procès, le juge ordonne une enquête complémentaire pour savoir s'il y aurait d'autres victimes.
Les enquêteurs vont se déployer sur toute la France. Ils vont même visiter certains pays européens limitrophes. Et l'on va recenser 37 personnes qui ont présenté des symptômes d'altération de leur santé, de leur physique, au sortir de matchs de tennis qui les opposaient aux enfants de Christophe.
37 personnes qui, comme Sébastien, Benoît et la famille d'Alexandre, attendent des réponses à leurs questions lors du procès à venir. Comment ce père de famille, apparemment sans histoire, a-t-il pu en arriver là ? Et surtout, aurait-on pu éviter le drame ? Le 1er mars 2006, 3 ans après l'accident fatal d'Alexandre, le procès de Christophe s'ouvre à la cour d'assises de Mont-de-Marsan. Pour cette petite ville de province, l'événement est exceptionnel.
On sait que c'est un procès un peu particulier. On n'a jamais entendu parler d'un père de famille qui droguait les adversaires au tennis de ses enfants. On sait que ça a une ampleur nationale et internationale. 55 journalistes français et étrangers sont accrédités pour l'occasion. On a aussi 63 témoins, 12 experts, 12 parties civiles, 7 avocats.
Dans l'incompréhension totale, la famille d'Alexandre et les autres victimes n'attendent qu'une chose : obtenir des explications sur les actes de Christophe.
Moi, j'arrive au procès dans l'état d'esprit de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Voilà, pour tout le monde. Étant on va dire, une des personnes qui a permis, on va dire, de découvrir et de faire remonter l'ensemble des informations, c'est vraiment comprendre et demander un minimum de justice par rapport à l'ensemble de ces faits.
Mais comme lors de la garde à vue, devant les jurés, l'homme ne s'explique pas.
Il n'est pas dans une attitude de lucidité, ce père de famille. Il a une attitude très étonnante parce qu'il dit tout au conditionnel, il s'exprime au conditionnel. Il dit « si je suis responsable, je vous demande pardon », dit-il aux parents d'Alexandre. Et il ne s'exprime que comme ça, comme si s'il n'y croyait pas.
Pourtant, face à l'acharnement du juge pour essayer de comprendre les actes reprochés à l'accusé, ce dernier va tenter de se justifier.
Christophe est arrivé à un point où il ne pouvait plus supporter les matchs. Ce n'est pas la tension du jeu qui était importante, ce n'était pas l'idée que les enfants puissent perdre, c'était la pression et l'impression surtout que ses enfants souffraient. C'est pour ça qu'il n'y a aucune logique dans son geste, parce que même des adversaires beaucoup plus faibles, il allait les droguer alors qu'il n'y avait aucune chance que ses enfants perdent. Et à partir de là, il était dans une telle tension qu'il partait pas avec l'idée de placer des témestats, mais qu'au bout d'un moment, c'était plus fort que lui parce qu'il avait l'impression que ses enfants souffraient.
Une justification qui ne convainc pas les jurés. Après 2 heures de délibération, Christophe est condamné à 8 ans de prison. À la sortie du tribunal, Bernard, le père d'Alexandre, exprime sa colère.
J'espère une toute chose que lorsque la famille Roosevelt se retrouvera tous ensemble, ils penseront que chez nous, il en manque toujours un.
Onze ans après le drame, le village landais n'oublie pas son instituteur, parti trop tôt. Le 3 juillet 2013, pour le 10e anniversaire de la mort d'Alexandre, le maire de Castelnau-Chalosse a fait poser une plaque sur la porte de sa salle de classe.
Alexandre est là, nous pensons à lui, nous ne l'oublions pas. Hein, oui. C'est ça. C'est le souvenir.
Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2005, Annie est assassinée dans son sommeil. Pour les gendarmes, un homme est immédiatement suspect. Il s'agit de Claude, le mari d'Annie. Mais était-il vraiment le vrai coupable? Voici ce document et cette enquête inédite pour Crime.
Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique d'une femme heureuse et sans histoire. Un drame qui va briser à jamais la vie de toute une famille.
Sincèrement, ce jour-là, on ne comprend pas. Et on ne comprend pas et on est à la fois méfiant et de notre côté, quelque part, il y a une peur qui s'installe.
Nous sommes à Saint-Loubert, au cœur de la région Aquitaine, à quelques mètres de la frontière entre la Gironde et le Lot-et-Garonne. Avec ses 171 habitants, cette commune est la plus petite du canton de Langon.
C'est un hameau constitué de quelques maisons, 7-8 maisons, pas plus, c'est vraiment un hameau tranquille.
Un milieu très, très rural, on va dire, avec des gens très attachés à leur terre, des gens très terriens.
29 janvier 2005, une belle matinée d'hiver s'annonce pour Pierre et son beau-frère, Claude.
Ce matin-là, ils sont allés, comme ils le font souvent, à une chasse, en l'occurrence une battue au gros gibier.
Vers midi, les deux chasseurs rentrent déjeuner chez Claude, qui vit à quelques kilomètres du rendez-vous de chasse. En arrivant, fait exceptionnel, il remarque qu'Annie, la femme de Claude, est encore à la maison.
Il voit la voiture donc, de l'épouse de Claude, ce qui intrigue d'ailleurs les deux hommes.
Pour Claude, Annie est malade. Pour Claude, Annie, qui est finalement une acharnée du travail et qui gère son petit commerce d'une main de maître, évidemment, il y a une interrogation du fait qu'elle soit là.
Annie est gérante d'un bar-restaurant. Elle adore son métier et n'a jamais raté un seul jour de travail. Son mari entre alors dans la maison.
Il appelle Annie qui ne répond pas. Donc il va monter dans la chambre d'Annie pour voir pourquoi justement elle ne répond pas et ce qui lui arrive. Bon.
Pierre, le frère d'Annie, est resté au rez-de-chaussée. Mais soudain, un hurlement se fait entendre dans toute la maison.
Il entend Claude crier. Donc il monte précipitamment les quelques marches qui séparent le rez-de-chaussée de l'étage. Et là, il trouve Claude dans l'entrebâillement de la porte de la chambre, en disant « ils me l'ont tué, ils me l'ont tué ».
Annie est dans son lit, visiblement morte. Pierre tire Claude par le col pour le sortir de la chambre. Les deux hommes redescendent et Pierre appelle immédiatement les secours. Il contacte aussitôt sa femme et la charge de prévenir les enfants d'Annie.
Elle m'a dit « ouais, il est arrivé quelque chose, t'as plus de maman ». J'ai dit « je comprends pas de suite, comment j'ai plus de maman ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Elle est où ? Je l'ai eu hier au téléphone. Enfin, mais tu n'as plus de maman. C'est mon diamant, quoi. Diamant, c'est éternel. Je peux pas la perdre. »
Pour les enfants d'Annie, c'est l'incompréhension totale. Qu'est-il arrivé à leur mère ? Annie est-elle vraiment morte ? Et pourquoi n'était-elle pas au travail aujourd'hui ? À Saint-Loubert, les gendarmes arrivent rapidement sur place. En entrant dans la chambre au premier étage, ils découvrent la scène de crime.
Lorsque les gendarmes font leur constatation, ils voient que Annie est allongée sur le ventre, malheureusement avec une tête éclatée, le bras droit le long du corps et la main gauche sous son visage. Elle semblait avoir été agressée dans son plein sommeil.
La chambre est intacte. À côté du corps, sur le lit, les gendarmes trouvent un fusil de chasse de calibre 16.
Ils voient que la couette qui couvrait le corps a été trouée par le coup de feu. Ils constatent des marques un peu effroyables de sang sur la tête de lit, sur les murs, sur le plafond.
La scène de crime est alors passée au peigne fin. Les enquêteurs cherchent à relever un maximum d'indices.
Ils constatent également une table de nuit dans laquelle sont mélangées des cartouches de calibre 12 et de calibre 16.
La piste d'un suicide, envisagée dans un premier temps, est immédiatement balayée. La position du corps et la position du fusil sont incompatibles avec un suicide. La deuxième piste envisagée est alors celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné.
Alors évidemment, c'est la première chose que les enquêteurs vont privilégier.
Devant la maison, les enfants d'Annie sont arrivés et attendent des informations sur la mort de leur mère. Quand ils apprennent qu'elle a été victime d'un meurtre, ils sont horrifiés.
On ne comprend pas. Donc on est là, on a l'impression voilà, on attend une réponse, quelque chose. Quelqu'un qui sorte, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas rentrer. Notre mère est morte, mais pourquoi on ne peut pas rentrer ? On veut la voir. Jamais on n'aurait eu la possibilité de la voir.
Le corps d'Annie est envoyé à l'Institut médico-légal pour y être autopsié. De retour au poste, les enquêteurs se penchent sur le profil de la victime. Annie a 61 ans, elle a eu 3 enfants d'un premier mariage, Véronique, Sylvie et Patrick. En 1999, elle épouse Claude en seconde noce. Depuis 2003, elle est la gérante d'un bar-restaurant, le Cercle La Concorde, à Castet-en-Dorth.
Annie, à l'époque donc des faits, elle a un petit peu plus de 60 ans. C'est une dame qui est volontaire, qui est joviale, qui aime finalement les gens, qui aime donner, qui... Voilà, donc quelqu'un qui vraiment a une très belle image au niveau de son village, de ses amis, de sa famille.
Ma mère, c'était un bout en train, toujours prête à... Vous passiez à l'improviste, il n'y avait rien dans le frigo, mais elle vous faisait un repas 3 étoiles. Voilà, c'était l'amour de la cuisine, l'amour de recevoir, avant tout. Toutes les petites blagues, c'était vous téléphoniez à 2h du matin, mais vous dérangez pas, vous avez besoin, j'arrive.
Une femme, apparemment pleine de vie et tournée vers les autres. Mais alors, qui a pu s'en prendre à Annie ? La gérante, à première vue sans histoire, avait-elle une double vie ? Sur les lieux du drame, les gendarmes entendent Claude, le mari d'Annie. Il est la dernière personne à l'avoir vue vivante. L'homme leur donne le planning de ses dernières 24 heures.
La soirée du vendredi soir de Claude, elle est finalement assez simple. Claude va dîner seul, il va se coucher à 21h en écoutant la radio. Voilà. Il devait se lever tôt puisqu'il y avait de la partie de chasse qui est programmée.
Vers minuit, son épouse rentre du cercle La Concorde. Elle réveille Claude, ils échangent quelques mots et en se couchant, elle lui demande de programmer son réveil. Le couple s'endort normalement jusqu'au lendemain matin.
Il se lève, il descend, il prend son petit déjeuner, il fait sa toilette. Il constate effectivement que son épouse est toujours en train de dormir.
Il part pour cette partie de chasse à Course-les-Bains, partie de chasse au chevreuil. La partie de chasse s'effectue sans difficulté et vers midi, avec Pierre, ils reviennent donc à la maison et où ils feront la macabre découverte.
Claude est formel. Annie était toujours vivante quand il est parti le matin à la chasse. Les gendarmes interrogent également les proches d'Annie qui sont toujours sur place. Et Roselyne, sa meilleure amie, leur fait une première révélation surprenante.
Pour elle, il n'y a aucun doute. L'auteur du meurtre ne peut être que Claude.
Cette amie d'Annie qui va orienter immédiatement ses soupçons sur Claude lorsqu'on découvre le corps d'Annie, elle dit oui, effectivement, moi j'ai immédiatement pensé à Claude parce que le couple n'allait pas.
Roselyne incrimine sans détour le mari de la victime. Visiblement, depuis quelque temps, le couple battait de l'aile. La principale cause de discorde, c'était l'argent. Annie avait repris il y a 2 ans une activité professionnelle, ce qui n'était pas du goût de Claude.
C'était des disputes récurrentes parce qu'il voulait prendre le dessus sur maman, puisque elle avait un métier, elle avait une sécurité financière, elle avait une situation sociale. Lui n'a pas très bien pris de se retrouver à la retraite, parce qu'il se sentait important, qu'à la retraite, il se sentait peut-être inutile.
Un sentiment d'infériorité insupportable pour Claude. Il se sent humilié par sa femme. Et fréquemment, il n'hésite pas à reprendre le dessus, physiquement.
On apprend par la bouche de sa mère, qui n'avait pas l'habitude de me raconter, comme on peut dire, des salades, que d'une part, elle a été violentée, que d'autre part, elle est très souvent insultée, qu'elle est... provoquée, que petit à petit, Claude a cherché à détruire tout son environnement à elle.
Patrick, le fils d'Annie, espérait pourtant que sa mère quitterait son beau-père. En 2003, elle finit par se décider. Mais il fait un infarctus et Annie, en bonne épouse, refuse d'abandonner son mari affaibli.
Il a poussé un peu à divorcer, mais elle avait toujours ce sentiment d'échec en souhaitant divorcer. Elle voulait préserver Claude qui avait des ennuis de santé.
Alors, Claude est-il impliqué dans le meurtre de sa femme, comme l'affirme Roselyne, la meilleure amie d'Annie? Et si c'est le cas, pour quelle raison aurait-il commis un acte aussi sordide? Les gendarmes de Grignoles ont désormais un suspect, Claude, le mari de la victime. Avant de le placer en garde à vue, ils vont s'intéresser à son profil.
Claude a 68 ans, c'est un retraité agricole, décrit comme psychorigide, un petit peu abrupt, ayant vécu à la campagne toute sa vie. Un type sans histoire, mais malgré tout colérique, qui a su montrer parfois... son tempérament à l'égard de son voisinage, de l'entourage proche, et qui le décrit comme quelqu'un de pouvant péter des plombs.
Claude a été marié une première fois et a une fille, Corinne. Il a rencontré Annie en 1995 par l'intermédiaire d'amis communs. Si Claude est un homme sans histoire, il est connu pour avoir du tempérament.
Claude, c'est un homme entier. Claude, c'est un homme avec beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. C'est un homme de la terre hein, qui a travaillé dans la viticulture.
C'est quelqu'un qui est un peu brut de décoffrage. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu une enfance rurale, un peu spartiate, qui n'est pas un grand bavard.
Le 30 janvier, le lendemain de la découverte du corps d'Annie, Claude est placé en garde à vue.
Claude est surpris et clame immédiatement son innocence. Il dit « ce n'est pas moi qui ai tué Annie ».
Claude a l'impression de vivre un enfer. Il jure de toutes ses forces qu'il aimait sa femme. Jamais il ne lui aurait fait de mal.
Ce début de garde à vue se passe très mal. Il vit très très mal le fait de se retrouver comme ça, en deux temps trois mouvements, et avec une si grande rapidité, d'un statut finalement de victime, de quelqu'un qui devrait être pour lui envisagé comme la personne la plus chagrinée, ou une des plus touchées par le départ de sa femme, comme quelqu'un qui va devenir très rapidement le suspect numéro un.
D'autant plus que face aux enquêteurs, Claude s'embrouille dans ses explications.
Claude, comme beaucoup de personnes qui traversent la garde à vue, fait une première déposition, revient sur cette déposition, il est parti à la chasse, il revient chercher des cartouches, il se mélange un petit peu dans les horaires, il explique qu'il a nettoyé le dessus de l'armoire, qu'il a enlevé la poussière. Il ne sait plus s'il y a un fusil ou deux. En tout cas, c'est le flou le plus total.
En garde à vue, Claude révèle un élément étrange aux gendarmes. Il est en procès au prud'homme, face à d'anciens employeurs. Et pour connaître le verdict, Claude est allé consulter un médium nommé Baba. Après l'avoir rassuré sur l'issue du procès, il lui aurait fait une révélation.
Ce voyant finalement va détourner, on va dire, l'objet du rendez-vous en effrayant quelque peu Claude lors d'un entretien qu'ils ont ensemble, en lui disant que il faut qu'Annie quitte la maison parce que sinon il va arriver un grand malheur.
Le médium aurait prédit le meurtre d'Annie. Interrogé à son tour, Baba donne une autre version.
Il dira que Claude lui aurait parlé de son désir d'éloigner sa femme. Et il y aurait à ce moment-là notre extra-lucide Baba lui aurait vendu quelques artifices pour notamment une sorte de liquide à répandre autour de la maison pour éloigner son épouse.
Avec ce témoignage, l'étau se resserre sur Claude. Le coup de grâce, c'est le rapport d'autopsie. Il confirme qu'Annie est bien morte alors qu'elle dormait. Mais surtout, il indique à quelle heure elle a été tuée.
Et ce rapport d'autopsie va donner une fourchette approximative de l'heure de la mort entre 22h et 4h du matin.
Donc c'est évidemment très problématique pour Claude, puisque à cette heure-ci, il est supposé être avec son épouse. Et la seule personne à ses côtés, donc c'est à ce moment qu'il devient le suspect numéro 1.
Claude est alors mis en examen pour homicide volontaire. Il part en détention provisoire à la prison de Gradignan. Pourtant, le mari d'Annie clame toujours son innocence. Alors, Claude est-il vraiment coupable? Et si c'est le cas, finira-t-il par avouer? En vue du procès, les gendarmes de Grignoles continuent leur enquête pour collecter un maximum de preuves. Et ils vont faire une découverte surprenante en épluchant les relevés bancaires de Claude.
Les investigations des enquêteurs permettent d'apprendre que la vie de Claude n'était pas forcément un long fleuve tranquille et que au sein du couple, ce n'était pas l'idylle comme ils veulent bien le prétendre, car les gendarmes ont découvert que depuis quelques mois, Claude avait contacté des agences matrimoniales.
Les enquêteurs apprennent que Claude avait recours aux messageries roses. Le 24 janvier, 5 jours avant le meurtre d'Annie, il s'était même inscrit dans une agence matrimoniale.
La veille de la perte de maman, il avait fait adresser en poste restante, c'est-à-dire à retirer à la poste d'Oros, qui est un village à une quinzaine de kilomètres, donc pas chez lui, un courrier venant de l'agence matrimoniale avec une liste de personnes à contacter qui correspondaient à sa recherche. C'est curieux, comme il avait prévu qu'il serait seul bientôt.
Les éléments à charge s'accumulent. Pourtant, Claude ne change pas de discours. Il aimait Annie et elle était bien vivante la dernière fois qu'il l'a vue. Les avocats de Claude vont alors demander une nouvelle expertise de l'heure de la mort. Pour eux, la fourchette horaire située entre 22h40 et 4h40 n'est pas satisfaisante.
Un expert va se pencher sur la question et va déterminer, lui, avec plus de précision, quoique, va déterminer que l'heure de la mort est intervenue entre 4h et 7h du matin. Sauf que la conclusion de l'expert, c'est que c'est une heure indicative, approximative, à 2h près.
Cela signifie donc qu'Annie a pu être tuée entre 2h et 9h du matin. Claude, ayant quitté son domicile à 8h, une autre personne aurait pu commettre le crime entre 8h et 9h. Le mari a même développé une théorie pour expliquer comment sa femme a pu être tué alors qu'il était encore dans la maison.
Dans une de ses dépositions, il en vient à expliquer qu'un intrus aurait pu s'introduire dans le domicile alors que lui-même était déjà levé pour partir à la chasse et qu'il n'aurait rien entendu.
Face à ce nouvel élément, les gendarmes vont envisager d'autres pistes. Ils vont notamment entendre 2 adolescents. Kevin et Jason, qui la veille du meurtre, ont assisté à un épisode insolite.
Kevin et Jason, la veille des faits, alors qu'ils se promenaient dans le coin, ont vu sortir de la maison un homme avec des moustaches au volant d'un 4x4 rouge.
Ils ont vu un homme sortir, qu'ils ont décrit, dont ils ont donné un signalement assez précis, qu'ils ont vu sortir en colère, disent-ils, le visage froncé, voilà, l'air figé dans un masque de colère.
Mais cet automobiliste n'a jamais été retrouvé. Devant le manque de preuves matérielles, Claude fait alors une demande de remise en liberté. Et à la grande surprise de la famille d'Annie et de son avocat, sa demande est acceptée. Il va être placé sous contrôle judiciaire.
Il y a sa façon de se conduire à l'égard de son épouse. Il y a son comportement vis-à-vis des agences patrimoniales, son comportement vis-à-vis de ce marabout, Baba, dans laquelle il disait « Écoutez, je veux me séparer de mon épouse et faites en sorte que je m'en sépare et qu'elle disparaisse de ma vie. » Tout cela font que il n'y a plus de doute. Alors, si vous me parlez de preuves véritablement judiciaires, eh bien, il n'y en a pas. Pas d'ADN, pas de témoins, il y a tout le reste.
Sincèrement, ce jour-là, on ne comprend pas. Et on ne comprend pas et on est à la fois méfiant et de notre côté, quelque part, il y a une peur qui s'installe.
La famille d'Annie est convaincue que Claude est coupable. Mais que vont penser les jurés lors du procès à venir ? Le mari accusé était-il, oui ou non, à la chasse au moment des faits ? Le 11 juin 2008, 3 ans et demi après les faits, le procès de Claude s'ouvre à la cour d'assises de Bordeaux. Dans le clan familial d'Annie, la tension monte.
L'ambiance est un peu tendue, d'abord parce que les parties civiles que je représente sont très angoissées, sachant que leur beau-père va nier toute culpabilité et va plaider l'acquittement. Elles sont extrêmement inquiètes.
Nous, pour un procès comme ça, qu'est-ce qu'on peut attendre à part... je sais pas, un mot comme « les enfants, je vous aime ». Pardon, j'ai tué votre mère.
Mais dans le box des accusés, Claude continue à clamer son innocence. Les jurés, eux, ne semblent pas être sensibles à ses déclarations.
Son comportement, on va jouer contre lui. Il n'a pas l'air... C'est pas quelqu'un qui paraît avoir d'émotion. Quand il vous dit « je suis innocent », il ne vous dit pas ça avec la conviction, avec le débordement d'énergie qui est celui du comportement de référence qu'on attribue à l'innocent.
Durant le procès, la personnalité de Claude est au cœur des débats. Les experts ne font pas un portrait très élogieux de l'accusé.
Une expertise psychiatrique a été ordonnée et elle conclut que Claude est un personnage méfiant, narcissique, paranoïaque et pouvant être colérique.
Quant au mobile, pour l'accusation, il s'agit d'un crime crapuleux. Claude en avait après l'argent d'Annie. Le soir du meurtre, le couple se serait une nouvelle fois disputé à ce sujet.
Annie, cette nuit-là, devait rentrer avec l'argent de la soirée et il semble qu'elle n'ait rien ramené. Ce qui aurait conduit Claude dans une rage folle et il se serait emparé d'un fusil, son fusil de chasse, pour en tirer un coup dans la tête d'Annie et ce serait le coup fatal.
Après 2 heures de délibéré, le verdict tombe. Claude est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Mais pour les enfants d'Annie, le calvaire n'est pas fini.
Après le procès, on se dit que on va pouvoir reprendre sa vie. C'est pas tout à fait le cas parce qu'on apprend très vite qu'il y a appel. Donc on n'est pas du tout soulagé parce qu'en fait, on va revenir à revivre ce qu'on a vécu pendant 3 jours.
Le 21 octobre 2009, le deuxième procès de Claude s'ouvre devant la cour d'appel de la Charente. L'homme n'a pas changé de ligne de défense. Il se dit victime d'une erreur judiciaire. Mais les jurés vont à nouveau confirmer le premier verdict et le condamner à 12 ans de réclusion. Neuf ans après les faits, la disparition tragique d'Annie hante encore le village de Saint-Loubert. Ses enfants ne pardonnent pas à celui qui leur a arraché leur mère. Au fond d'eux, la douleur sera toujours présente.
La plus belle chose de ma vie, c'est mes enfants. Ce qui comptait le plus, c'était ma mère. Et le mal est incurable. C'est un cancer dont on ne guérit jamais. Mais on n'en meurt pas. Parce que malheureusement, la vie continue et il faut sourire à la vie. Donc il faut vivre avec. Donc souvent, on est triste. On pleure en silence.